BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel.
Midi passé de 1 minute sur BFM Business. Bienvenue à tous. À la une de 60 minutes business, comment réduire notre consommation de gaz 15% en moins à partir d'aujourd'hui. C'est la conséquence directe de la guerre en Ukraine et l'accord passé par la Commission européenne. Particuliers, entreprises, collectivités, tout le monde doit faire un effort. Soyons sérieux. Est-ce que ce n'est pas plus important de se nourrir que de se baigner ou d'aller jouer au golf? Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, renvoie aux autorités la responsabilité de la gestion de l'eau en pleine période de sécheresse. Le retour au monde d'avant, 2 ans après la pandémie, l'essor du commerce en ligne, les boutiques font aujourd'hui le plein et les entrepôts, des plateformes de vente à distance, sont à la peine. On verra ça. On reviendra également sur la saison des festivals qui sont pleins en ce moment et la production de melon qui souffre également de la sécheresse. On verra ça. Bienvenue à tous. Quel pays européen est le plus dépendant au gaz russe? Élaboré en quelques semaines à peine, le plan de sobriété doit entrer en vigueur aujourd'hui pour répondre à l'accord de l'Union européenne afin de réduire de 15% notre consommation de gaz et aider les États à accélérer la reconstitution de leurs stocks avant l'hiver. Mathieu Pechberti, que prévoit le texte?
Alors ce texte rentre effectivement en vigueur aujourd'hui et prévoit en tout cas tous les États membres européens à baisser assez fortement leur consommation de gaz, puisque effectivement ils demandent aux pays européens de baisser leur consommation de gaz de 15% à partir d'aujourd'hui et surtout d'ici mars 2023. C'est-à-dire l'échéance est assez courte, hein, on parle de 7 mois, c'est un niveau assez important, 15%. Alors tous les pays européens ont signé ce texte, sauf la Hongrie, hein, ça avait fait pas mal de bruit il y a quelques semaines quand ce texte avait été signé. Le problème, c'est que ce texte pour le moment n'est pas contraignant, donc il écrit que les États européens devront faire tout leur possible pour arriver à cet objectif, sachant que l'objectif étant élevé, on est quasiment certain qu'on n'y arrivera pas. Bon, il y a un cas de force majeure tout de même, c'est en cas de pénurie de gaz, donc c'est-à-dire l'hiver prochain, si tant est qu'on ait une pénurie de gaz, là, cet accord pourra, on va dire, être contraignant et donc s'appliquer de manière unilatérale aux pays européens qui devront donc baisser leur consommation. Mais si on est réaliste et si on regarde un petit peu les faits, baisser de 15% la consommation de gaz en si peu de temps, franchement, c'est quasiment injouable, en tout cas, c'est ce que disent tous les industriels. On va dire que c'est un objectif pour, on va dire, un petit peu secouer les consciences et les habitants de l'Union européenne, puisque les économies d'énergie, c'est quand même pas une culture ou en tout cas un mode de consommation qui est très à la mode dans les pays européens. On est surtout axé sur la production. En France, par exemple, pour terminer, on sait que les économies d'énergie en gaz, en tout cas s'il y a pénurie cet hiver ou si on se dirige vers la pénurie, seront largement faites sur les industriels, notamment les gros consommateurs de gaz. Pour les particuliers, il y a eu quelques messages politiques envoyé, mais on voit bien que ça ne prend pas encore. On devait avoir une grande campagne de communication du gouvernement qui devait être lancée cet été. Elle a été repoussée à la rentrée pour les économies d'énergie pour les particuliers. Mais en tout cas, cet objectif de 15% est très élevé. On est quasiment certain de ne pas y arriver en mars 2023, mais ça donne une tendance et une volonté de l'Union européenne.
Merci Mathieu Pechberti. Le coup de gueule du premier syndicat d'agriculteurs en France sur BFM Business, alors que nous souffrons de cette sécheresse qui n'en finit plus. Les cours d'eau sont à sec, les arbres aussi ont soif, les cultures sont asséchées. Pendant ce temps, les golfs continuaient de dérouler leurs verres insolents sous les clubs de leurs clients. Des particuliers continuent d'arroser quotidiennement leurs pelouses et le remplissage des piscines aussi. Pose question à Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA.
Donc lorsqu'il n'y a pas d'eau, nous comprenons qu'il y ait des arrêtés d'interdiction. Par contre, il faut qu'il y ait concertation. Et visiblement, dans certains départements, je pense à la Charente-Maritime, à la Dordogne, où les agriculteurs s'insurgent aujourd'hui, les choses ont été faites de façon autoritaire, sans en parler vraiment suffisamment. Et là, les agriculteurs ne convainquent pas que ce soit aussi brutal. Mais de vous à moi, est-ce que ce n'est pas plus important de se nourrir que de se baigner ou d'aller jouer au golf? Au moment où on parle de choix prioritaires, est-ce que se nourrir et protéger l'agriculture et l'alimentation pour qu'il y ait en quantité de production et donc des prix qui ne flamberont pas, c'est pas plus important que beaucoup d'autres choses?
On l'entend, les exploitants agricoles sont en première ligne face à la vague de chaleur. Allons du sud-est jusqu'aux Charentes, de Cavaillon jusqu'à la région du Melon dans les Charentes, voire l'un des produits phares de l'été. Marion Mispouillet, bonjour.
Oui, bonjour.
Animatrice de l'association interprofessionnelle Melon. Alors, comment se porte la star de l'été face à la vague de chaleur?
Elle est comme toutes les autres, comme tous les autres produits. Elle est aussi, du coup, Elle subit aussi du coup les fortes chaleurs et puis surtout la sécheresse qu'on connaît. On a voilà une campagne qui a été donc très précoce. Hein, donc depuis début juin, on a donc du melon qui est très présent. On a même 2 à 3 semaines d'avance sur les différents calendriers. Et puis ben, aujourd'hui, donc on fait face à la sécheresse, donc c'est-à-dire au manque d'eau, avec donc différents effets sur les plantes, sur les rendements et puis aussi donc les calibres, le calibre et la taille des melons.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des melons qui sont plus petits, peut-être. Ça nécessite beaucoup d'eau pour faire pousser un melon.
Oui. Alors, les conséquences, elles sont différentes en fonction des bassins, puisque sur les bassins de production, il y a différentes pratiques culturales. Donc, dans le sud, les melons sont quasi tout le temps, enfin, sont irrigués. Donc, pour avoir du melon, il faut irriguer, puisqu'on a besoin d'eau. Sur certains bassins, on va avoir des parcelles qui ne sont pas irriguées, comme par exemple dans le Poitou, où on va avoir du coup un apport d'eau sur une année normale, un apport d'eau qui permet de produire du melon sans irrigation. Les conséquences du coup de la sécheresse qu'on connaît aujourd'hui et le manque d'eau pour la plante, c'est-à-dire qu'on va avoir des plantes qui sont plus petites, plus faibles, donc moins chargées en fruits. Donc la faible charge moins de fruits par plante, ça c'est lié à la difficulté qu'a la plante avec moins d'eau de faire des melons. Et puis on a aussi la problématique des abeilles puisqu'on a besoin d'abeilles notamment pour polliniser les plantes, donc pour féconder la fleur femelle et avoir derrière un petit melon. Pas d'abeilles, pas de melons. Eh bien, les abeilles, elles sont comme nous. Les pollinisateurs, ils sont comme nous. Avec la chaleur, ils ont du mal. Ils vont travailler moins longtemps. Ils vont avoir du mal. Ils vont moins sortir. Et puis, ils vont être aussi moins vivaces.
Marion Lispouillet, on a aussi moins de fruits. Au-delà de l'événement exceptionnel de sécheresse que l'on connaît aujourd'hui, cela fait plusieurs années que le nombre d'hectares dédiés à la culture du melon se réduit. Quels sont les concurrents aujourd'hui au melon ou les menaces qui planent sur sa production?
Alors, depuis quelques années, c'est vrai que les surfaces donc, se sont réduites au niveau des melons, hein, principalement par des difficultés économiques au niveau de la production. C'est vrai que donc, cette année, on a quand même la chance, j'ai envie de dire, d'avoir une consommation qui est très présente. Parce que voilà, au niveau de la météo, même s'il y a la sécheresse, on a quand même la chance d'avoir un produit donc, qui est météo-sensible et d'avoir des conditions estivales qui font que le consommateur répond vraiment présent. Donc ça, c'est un peu une aubaine pour nous au niveau de la filière melon. Cette campagne a aussi connu ses difficultés, notamment en début de campagne avec beaucoup de volume au mois de juin et une offre. Le marché du melon, c'est l'offre et la demande. Et donc, on a eu une offre qui était très importante à un moment.
Marion Mospillet, il n'y a pas de marques non plus qui sont très identifiées, comme c'est le cas pour les pommes, hein, les Granny Smith, les Gala, les Pink Lady. Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être créer des IGP, des indications géographiques protégées aussi pour les melons, pour les sanctuariser?
Alors, il existe des IGP dans le melon. Donc, il y a l'IGP du Haut-Poitou, il y a l'IGP de Quercy. Il y a donc aussi le melon de Cavaillon qui est en cours d'obtention de son IGP et l'IGP aussi du melon de la Guadeloupe. Donc, des IGP, il en existe. Après, il y a également aussi après des marques au niveau donc de certains opérateurs. Par contre, à différence de ce que vous disiez, donc il n'y a pas de club comme la Pink Lady, par exemple, aujourd'hui dans le melon.
Merci Marion Mispouillet, animatrice de l'association interprofessionnelle du melon, d'être intervenue sur BFM Business pour détailler avec nous ces difficultés auxquelles font face les producteurs de melon aujourd'hui face à la vague de sécheresse dont le pic est attendu pour vendredi. 93 départements sont en restriction d'eau, les 2/3 en situation critique. Grande inquiétude également pour les éleveurs puisque les stocks de fourrage sont en réduction. Aujourd'hui, il faut 10% de récolte irriguée. Sans fourrage, impossible de nourrir les bêtes, Laura Cambeau.
La sécheresse frappe de plein fouet les deux composantes essentielles du fourrage, l'herbe et le maïs. Leur croissance s'est stoppée très tôt. Michel Moquet, spécialiste de l'Institut agricole Arvalis, prévoit déjà une année catastrophique.
Sur la partie production d'herbe au printemps, globalement, on parle de moins 20, moins 30% par rapport à une année normale. Et sur le maïs, depuis maintenant une quinzaine de jours, on a déjà eu des premières récoltes, ce qui est quand même exceptionnel pour cette culture, hein, où les chantiers se déroulent plutôt on va dire fin août, début septembre d'habitude.
La majorité de la production est destinée à l'alimentation des animaux. Seulement les prés ont brûlé et les stocks de fourrage pour l'hiver sont déjà entamés depuis juin. Les éleveurs vont donc devoir en acheter. Or, avec la guerre en Ukraine, les cours des céréales n'ont jamais été aussi élevés. Plus de 300 euros la tonne de maïs en ce moment.
Les éleveurs seront peut-être obligés de vendre une partie de leurs animaux hein, pour pouvoir passer cette période difficile. Donc ça peut avoir des répercussions sur la production laitière, ça peut avoir des répercussions aussi sur le marché de la viande.
Pour lutter contre les conséquences du réchauffement climatique, les éleveurs devront s'adapter, notamment en changeant leur production et en adaptant le calendrier des récoltes.
Et on l'entend avec la succession de chocs économiques, la guerre en Ukraine, avant cela il y avait la pandémie. À quoi s'ajoute l'inflation et désormais la sécheresse? Eh bien les éleveurs n'ont plus d'eau, au grand dam, des vaches bien sûr, puisqu'il en faut beaucoup de l'eau pour les hydrater aujourd'hui. Sofiane Aklouf.
L'herbe ne pousse plus dans les champs de Bouquelon dans l'Eure. Les vaches laitières de l'agriculteur Bruno de Longmar ont chaud. Résultat, sa production est en baisse de 10% depuis le début de l'été.
En temps normal, sur l'exploitation, nous produisons environ 2000 litres de lait quotidiennement. Aujourd'hui, sous l'effet de la sécheresse très prononcée, la production a réduit d'environ 10% quotidiennement. Donc le calcul est vite fait. Nous avons plus que 1800 litres de lait produit au lieu des 2000 initialement.
Les prix des produits laitiers sont déjà en hausse depuis un an, plus 4,5% pour les yaourts et le lait, plus 5% pour le fromage et une augmentation de près de 10% pour le beurre. Néanmoins, cette progression est moins forte que celle des pays voisins où la tonne de lait coûte plus de 500 euros contre 390 euros l'année dernière en France et 427 depuis mai dernier. Seule solution pour rémunérer correctement les producteurs, augmenter le prix de vente du lait, d'après l'agriculteur Bruno de Longmar.
Ce sera avec plaisir que le prix du lait augmenterait, mais faire bien attention que l'effort qui va être demandé aux consommateurs revienne bien dans la poche de l'agriculteur.
Les négociations ont été rouvertes au printemps. La Fédération nationale des producteurs de lait demande que le litre approche l'euro dans les supermarchés, contre 78 centimes en moyenne actuellement.
Et selon le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière, les yaourts ont augmenté sur un an de 4,5%, le prix du lait en bouteille également, et le beurre plus 9,8% sur une année. La DGCCRF, le gendarme de la concurrence, a dressé 138 procédures d'amende administrative pour un montant total de 13 800 000 euros au premier semestre pour non-respect des délais de paiement par les entreprises, des infractions en hausse par rapport à 2021, même si la somme cumulé recul. Gros coup de frein sur le commerce en ligne. Après 2 ans exceptionnels sur fond de pandémie, les ventes à distance reculent depuis janvier. Un phénomène qui s'est accentué par l'inflation et selon les chiffres compilés par le FT, le Financial Times, la demande en entrepôt nécessaire pour ce commerce en ligne baisse, tout comme les prix, Caroline Morisseau.
Éclatement d'une bulle ou simple ralentissement du marché, c'est en tout cas la fin d'une période d'euphorie sur le marché des entrepôts. Depuis quelques années, les investisseurs se sont en effet rués sur ces biens qui avaient tout pour attirer. Une forte demande liée au boom du e-commerce, alors qu'à l'inverse, les bureaux et les magasins étaient désertés pendant la crise Covid. Tout cela dans un contexte de taux bas. Seulement voilà, depuis quelques mois, la donne a changé. Le commerce en ligne ralentit, les taux remontent et font baisser le rendement locatif. Tout cela se ressent déjà sur le prix des entrepôts. Ils ont perdu 5 à 10% sur l'ensemble de l'Europe depuis le début de l'année. Au Royaume-Uni, où le marché est particulièrement développé, on est même sur 10 à 20% de baisse. Pour certains analystes, c'est une simple correction et le marché a encore de belles perspectives. Car si la demande ralentit du côté du commerce en ligne, les commerces traditionnels pourraient bien prendre le relais face aux pénuries et à la hausse du carburant. De plus en plus cherchent en effet des entrepôts pour stocker leurs marchandises au plus près de leurs clients.
C'est du jamais vu pour un ancien président des États-Unis. Le FBI a perquisitionné la villa de Donald Trump en Floride, à Mar-a-Lago. L'ancien président aurait emporté des archives officielles de la Maison-Blanche qui doivent pourtant toutes être consignées. Donald Trump, qui n'était pas particulièrement organisé, avait même de nombreuses fois bouché les toilettes de la Maison-Blanche en voulant faire disparaître certains de ses documents. Ce revers pourrait bien mettre à mal les ambitions présidentielles du républicain. Le FBI n'a pas encore confirmé l'opération menée en grande pompe ce matin. Le Pentagone lui annonce une nouvelle aide militaire d'1 milliard de dollars à l'Ukraine, qui comprend notamment des des missiles supplémentaires de courte et moyenne portée ainsi que des missiles anti-chars Javelin. Il s'agit de capacités cruciales pour repousser l'offensive russe dans l'Est et s'adapter aux évolutions en cours dans le Sud et ailleurs, déclare le numéro 3 du Pentagone. Le feu vert du régulateur aérien américain à la reprise des livraisons des Boeing 787. La compagnie American Airlines attend sa première livraison demain avant une mise en service de l'aéronef dans les prochaines semaines. 120 avions sont en attente de livraison. Des premiers défauts sur le long courrier 787 Dreamliner avaient été découverts à la fin de l'été 2020, obligeant Boeing à cesser ses livraisons. L'appareil étant examiné de près, d'autres problèmes étaient ensuite apparus. Une nouvelle passe judiciaire dans le bras de fer qui oppose Ben & Jerry's avec sa maison mère Unilever. La marque de glace prend régulièrement position sur des sujets de société en faveur notamment de l'avortement, en faveur également d'une taxe sur les super profits contre, je cite, les compagnies gazières aux profits immoraux et contraires à l'environnement, des déclarations que goûte peu sa maison mère, ou encore Ben & Jerry's avait refusé la vente de ses pots dans les colonies israéliennes. La justice américaine doit trancher aujourd'hui, Virginie Cook.
Pour comprendre les raisons de ce bras de fer, il faut revenir un an en arrière. L'été dernier, Ben & Jerry's, connu pour ses engagements en matière d'écologie ou de respect des droits de l'homme, prend une décision très médiatisée, ne plus vendre ses glaces dans les colonies israéliennes de Cisjordanie. En réponse, il y a deux mois, la société mère Unilever décide de céder la branche israélienne de Ben & Jerry's à Avi Zinger, le détenteur de la licence locale. Une opération qui permettrait de redémarrer l'activité dans les colonies israéliennes. Mais pour la marque, cette cession menacerait son intégrité et sa réputation qu'elle a mis des décennies à construire. Pour bloquer la vente, Ben & Jerry's a donc porté l'affaire en justice. Cette bataille met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises qui prennent position sur ce sujet. Il y a 3 ans, Airbnb avait arrêté de louer des logements dans les colonies israéliennes avant de revenir sur sa décision.
Et puis l'armée de Taïwan a mené un exercice d'artillerie à balles réelles simulant la défense de l'île contre une éventuelle invasion chinoise que l'île accuse Pékin de préparer. Plusieurs centaines de soldats ont été déployés ainsi qu'une quarantaine d'obusiers, a indiqué l'armée taïwanaise. Un nouvel exercice est prévu dans 2 jours. Midi 18 sur BFM Business, on jette un œil à la bourse. Avec Étienne Brac. Étienne, comment se porte la séance à la mi-journée?
C'est calme, particulièrement calme pour l'indice parisien avant les chiffres d'inflation aux États-Unis. Demain, c'est à 14h30. En attendant, de la prudence, un indice parisien qui perd 0,3% à la porte des 6504 points. Le tout avec des volumes d'échanges particulièrement faibles. Vous avez moins de 500 millions d'euros échangés dans l'indice parisien. Ça montre bien qu'il y a très peu d'investisseurs présents sur ce marché. Du côté des valeurs, on a le secteur de la pharma qui est sur les devants de la scène aujourd'hui, avec notamment Sanofi qui perd 1,4% à 95 euros, avec le groupe qui a annoncé ce matin suspendre les recrutements sur son essai expérimental permettant de soigner certaines formes de sclérose en plaques. Dans le même temps, vous avez également UBS qui passe d'achat à vendre sur la valeur. Donc vous avez Sanofi qui est aujourd'hui l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40. Et puis à l'inverse, du côté du SBF 120, ça se passe bien pour Valneva qui gagne plus de 2,5% au-delà des 10 euros, avec la biotech franco-autrichienne qui a annoncé ce matin lancer une étude de phase 3. Donc c'est la dernière étude avant la commercialisation avec Pfizer, notamment sur le vaccin contre la maladie de Lyme. Et donc tout ça, ça permet de soutenir ce titre. À noter le cours du pétrole, en l'occurrence le Brent, qui tente de se stabiliser aux alentours des 96 $, ce qui est bénéfique pour Total Energy, qui est en tête de l'indice parisien avec un gain de quasiment 1% au-delà des 50 euros. Et donc le CAC 40 en petite baisse aujourd'hui, au-delà des 6500 néanmoins, 6505 points, c'est compliqué, dit donc aujourd'hui 0,3% avant donc l'inflation aux États-Unis. Demain, c'est à 14h30.
Merci Étienne Brac. Midi 20 sur BFM Business. Avec la fin des restrictions sanitaires, on s'attendait à un été radieux sur le front des festivals. Qu'en est-il à la mi-saison? Est-ce que les festivaliers sont au rendez-vous? On fait le point tout de suite avec Olivier Darbois, le président du Prodis dans BFM Business. À dans un instant.
BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel.
Midi 21, bienvenue sur BFM Business si vous nous rejoignez. 2 ans après le début de la pandémie, c'était un été qu'on annonçait radieux sur le front des festivals puisque la plupart des restrictions étaient levées. Pour faire le point avec nous ce 9 août, Olivier Darbois, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans 60 minutes business. Président du Prodis, alors est-ce que les grands rendez-vous de l'été, les grands festivals ont-ils renoué avec leur clientèle fidèle?
Les grands festivals, oui. ils tirent bien leur épingle du jeu, la fréquentation est là. Sur les festivals de plus modestes, enfin quand je dis plus modestes, de moyenne importance ou les petits festivals, c'est plus compliqué. Mais les gros festivals, la fréquentation a été au rendez-vous, donc on peut dire que c'était un été assez prolifique. Ça. Maintenant, les chiffres de fréquentation ne veulent pas dire que les résultats économiques seront au rendez-vous.
On peut parler juste un instant des chiffres de fréquentation. Le Hellfest, qui est devenu cet été, il me semble, le premier festival français, le plus gros.
Le plus gros festival européen. Même.
Européen. 420 000 spectateurs. C'est plus qu'avant la pandémie. On peut parler également du Solidays à Paris, qui a fait plus que l'édition de 2019.
Oui, pour le Hellfest, c'est un doublement des... En fait, leurs éditions, maintenant, sont sur deux week-ends. Donc, c'est ce qui explique aussi si vous voulez, la fréquentation qui a doublé. Sur les gros festivals, que ça soit Solidez, que ça soit Lollapalooza, que ça soit un certain nombre de festivals ont effectivement amélioré même leur score.
Les Vieilles Charrues aussi, c'est pas pour autant que les recettes sont au rendez-vous.
Non, parce que en fait, ça s'explique très facilement. Il y a énormément avec le contexte géopolitique. Et aussi le report de tous les concerts et de toutes les dates de concerts de 2020 et 2021 sur 2022. Cela a produit de la pénurie d'équipements, pénurie également de personnel. Beaucoup de personnel, compétences confondues, ont quitté le domaine du spectacle vivant. À peu près, on estime entre 25 et 30% de personnel qui ont quitté. Ce qui fait que ça induit forcément de l'inflation. Et pour être plus précis, ce sera à la fin de l'été, certainement septembre, fin septembre, qu'on aura des chiffres qui attesteront de la bonne santé économique ou non de ces festivals. Mais nous sommes plutôt réservés.
Plutôt réservé. Le Prodis organise 142 festivals. En tout cas, 142 festivals sont adhérents du Prodis parmi ces festivals-là. Comment est-ce qu'on ressent aujourd'hui la vague de chaleur qui touche toute la France aujourd'hui? Comment on gère? On a besoin, j'imagine, de milliers de litres d'eau pour les sanitaires, pour ces choses-là. Qu'est-ce que...
Tout à fait. C'est compliqué. C'est compliqué. Vous avez eu même les exemples d'un festival qui a été annulé pour raison de canicule. Il y a quelques semaines. Donc, c'était la première fois que ça arrivait, parce que la plupart du temps, quand des festivals sont annulés, c'est pour des raisons d'orage ou de, comme ça a été le cas d'ailleurs pour Wheel of Green et pour les Eurocaennes.
Les Eurocaennes, au tout début de l'été, des orages énormes, on
s'en
rappelle.
Tout à fait. Pour les raisons de canicule, c'est beaucoup plus rare et c'est historiquement la première fois que ça arrive. Donc, il n'y a pas 50 solutions. Hein. Effectivement, il faut prévoir de l'eau pour d'abord les festivaliers, parce que la déshydratation guette. Mais il y a aussi, comme vous le disiez, il faut. Ça a été un petit peu décrié même sur le Hellfest, c'est-à-dire amener de l'eau pour pulvériser, pour rafraîchir les festivaliers. Donc c'est une entreprise compliquée.
Voilà. Vous avez entendu Christiane Lambert dans le journal juste avant qui disait voilà, qu'est-ce qu'on doit privilégier aujourd'hui, les cultures de céréales, l'élevage de bêtes pour se nourrir ou effectivement ce qu'on pourrait considérer comme des loisirs? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui répondre?
Les loisirs sont aussi importants que... Oui, j'ai entendu, et forcément, l'agriculture souffre énormément aujourd'hui. Il doit y avoir forcément des priorités. On est dans un monde multi-économique où tout le monde a le droit d'exister, mais effectivement, il y a certainement des priorités et il y a de la solidarité qui doit s'instaurer en France. Nous avons été 2 ans fermés. La solidarité de l'État a été au rendez-vous. Nous avons été sauvés pendant ces 2 années. J'imagine que la solidarité, elle doit s'appliquer à tous les secteurs. C'est compliqué. Le spectacle, après 2 ans de fermeture ou de restriction, nous sommes sur une réouverture qui est compliquée, mais c'est tout un pan de l'économie. Il faut aussi en prendre mesure. Et puis, certainement obligatoire, parce que les gens réclament un petit peu de fantaisie, de culture, ils ont passé deux ans compliqués, donc c'est normal aussi que notre secteur redémarre.
On a envie effectivement de ressortir, on parlait des musiques actuelles, mais il y a aussi un autre pan des festivals aujourd'hui, les arts lyriques à Aix, notamment Aix-en-Provence, le festival d'Avignon dans le théâtre, les rencontres d'Arles, dans la photographie, ces festivals-là aussi retrouvent aujourd'hui leur clientèle qu'on peut imaginer peut-être plus âgée, que le Covid a peut-être, à qui le Covid a pu faire peur.
Oui, alors, ce n'est pas tout à fait notre secteur, hein, puisque nous sommes vraiment le secteur du privé, principalement de la musique et de l'humour aussi. Je pense que, enfin, ce que j'ai entendu sur Avignon et sur Aix, Avignon a bien redémarré, une fréquentation dans le in optimale, et dans le off, je crois que ils ont atteint 80% de leurs objectifs par rapport à l'année avant crise, à 2019. Mais je ne suis pas spécialement informé de leurs chiffres. Je pense que ça redémarre d'une façon un petit peu identique à nous, hein, c'est-à-dire compliquée, avec beaucoup d'inflation. Voilà, c'est 2022. Nous, de toute manière, nous avions un petit peu ce pressentiment que ça allait être compliqué. Le redémarrage allait être compliqué.
Et les difficultés sont nombreuses. Donc, on a dit pénurie de main-d'œuvre avec les intermittents, notamment les métiers qui sont partis.
Pas que les intermittents, hein, certains prestataires aussi qui ont disparu.
Prestataires, l'inflation qui a fait augmenter vos coûts. Et donc, ce risque canicule aujourd'hui qu'il va falloir intégrer sur le long terme, puisque un festival a dû être annulé. À cause de
oui, bah forcément, c'est l'été, en fait, c'est les festivals, je dirais 70% des festivals ont lieu l'été. Donc si cette édition présage de d'autres éditions de plus en plus compliquées avec le réchauffement climatique, effectivement, il va falloir s'adapter, ça c'est clair.
Merci Olivier Darbois.
Je vous en prie.
Merci d'être venu en son business, président du Prodis, le syndicat national du spectacle musical et de variété. Midi 29 sur BFM Business. On marque une légère pause. On revient dans un instant pour le rappel des titres et les meilleurs moments de BFM Business avec vous. À tout de suite. Midi et demi sur BFM Business, à la une de l'actualité de ce mardi. Comment réduire de 15% notre consommation de gaz? Les Européens sont tous sommés de mettre en place le plan de sobriété décidé par la Commission européenne. Chaque État doit présenter sa feuille de route pour enclencher des mesures de restriction et réduire de 15% notre consommation de gaz. Décision directe après face à la crise en Ukraine et l'invasion russe, alors que Moscou continue de jouer avec le robinet d'alimentation de l'Europe. Le prix du lait va continuer d'augmenter, a prévenu ce matin sur notre antenne Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. Alors que sur un an, le prix des yaourts a pris 4,5%, idem pour le lait en bouteille, le beurre plus 9,8%, le fromage plus 5,2%. La DGCCRF a adressé 138 procédures d'amende administrative pour un montant total de 13 800 000 euros au premier semestre pour non-respect des délais de paiement par les entreprises. Le feu vert du régulateur américain à la reprise des livraisons du Boeing 787 et la compagnie American Airlines qui attend sa première livraison dès demain avant une mise en service de ces avions la semaine prochaine. 120 avions de Boeing sont en attente. L'armée de Taïwan, elle, mène un exercice d'artillerie à balle réelle tout autour de son île contre une éventuelle invasion chinoise que l'île accuse Pékin de préparer. Le Pentagone annonce une nouvelle aide militaire $1 milliard pour l'Ukraine avec notamment des missiles de court et moyenne portée ainsi que des missiles anti-char Javelin. La bourse de Paris à la mi-journée elle stagne. Le CAC 40 est dans le rouge, moins 0,3% à 6503 points. Les bourses européennes attentives. Midi 32 sur BFM Business. Merci d'être avec nous.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.